L'invité du 5-7 est le journaliste Valentin Gendreau, journaliste infiltré donc pendant 2 ans au cœur de l'institution policière. Vous dénoncez, Valentin Gendreau, dans votre livre des faits de violence qui sont graves, on va y venir. Vous racontez aussi le quotidien des policiers et le manque de moyens dans ces commissariats. D'abord, pourquoi avoir mené cette démarche d'infiltration? C'est pas une méthode de journalisme classique.
Le sujet police est un sujet qui est extrêmement clivant parce que vous avez une partie de la population qui va aimer, soutenir la police, qui va souvent défendre, dénoncer les conditions de travail, le mal-être policier. Puis vous avez une autre partie de la population qui va au contraire la détester, cette police, et qui va axer sur les violences policières. Moi, ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'était d'être au milieu, d'apporter une nuance à un sujet où il n'en existe pas. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir montrer, raconter le quotidien d'un policier dans un commissariat en France. En 2019 ou 2020.
Alors c'est un investissement en temps, hein, long. Vous entrez à l'école de police à Saint-Malo, vous en sortez adjoint de sécurité et après un passage à la préfecture de police de Paris, vous êtes affecté au commissariat du 19e. Vous allez y passer 6 mois. Quelle est la première impression? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez en arrivant?
La première impression, donc mon premier jour au commissariat, c'est d'abord la stupéfaction parce que je vois un gardé à vue qui demande à aller aux toilettes, donc il frappe sur sa porte une fois, deux fois, trois fois, et la troisième fois, il est extrait de sa cellule par un policier qui va le frapper. Une demi-heure plus tard, je me retrouve devant la porte du commissariat où je surveille, je laisse entrer ou sortir les gens qu'il souhaite avec un autre policier. Une femme de 70 ans environ se présente devant la porte, elle nous dit: bonjour, je viens déposer une main courante parce que mon mari m'a menacé de mort. Le policier va lui répondre: si ça se reproduit, revenez plus tard. Ces deux événements-là, le premier jour, font que je suis abasourdi. Je me dis: dans quel monde parallèle suis-je tombé?
Après 6 mois, vous vous dites qu'ils sont représentatifs de quelque chose?
La garde à vue, ça fait partie des zones grises de la police, c'est-à-dire que c'est régulier de ne pas avoir de traces écrites de ce qui peut se passer en garde à vue. Les violences conjugales, je le montre dans mon livre, à un moment où les policiers sont quand même mal formés. Je peux citer mon exemple. En école de police à Saint-Malo, 3 heures de formation, 1 heure théorique, 2 heures pour visionner un film, Mon Roi de Mai Wen. C'est tout ce qu'on a eu. Donc effectivement, c'est représentatif. Parce que ça montre d'un côté les zones grises de la profession qui est pourtant la plus contrôlée de France et de l'autre l'impréparation des policiers face à ce qui est le plus courant dans les interventions de police, c'est-à-dire les violences conjugales, les violences intrafamiliales, familiales et les différends entre voisins.
Il y a cette bavure que vous pointez dans votre livre et qui déclenche aujourd'hui une enquête de la police des polices. C'est quoi? C'est un policier qui pète les plombs sous vos yeux?
C'est un policier qui pète les plombs, comme vous dites, qui va frapper un adolescent, qui va le tabasser dans la voiture, qui va le frapper à nouveau au commissariat, qui va même aller jusqu'à déposer plainte contre l'adolescent pour outrage et menace sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est un moment charnière dans ce livre, effectivement, puisque moi, en tant que policier infiltré, je vis une espèce de dualité entre le policier qui, du coup, va se retrouver à couvrir les agissements d'un policier qui est allé trop loin, et de l'autre, le journaliste, le citoyen, l'homme blanc de 32 ans, qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire, jusqu'où il doit aller. C'est extrêmement compliqué à vivre, à gérer. Ouais.
Vous dites des faits qui vont être couverts parce que c'est un faux procès-verbal qui est alors rédigé?
C'est un faux procès-verbal, ça s'appelle un faux en écriture publique. C'est une des pires choses pour un policier, c'est considéré comme un crime. C'est-à-dire qu'un policier qui va frapper un mineur, c'est passible de 5 ans d'emprisonnement. Un faux en écriture publique, c'est passible de 15 ans d'emprisonnement, 225 000 euros d'amende, les assises. C'est extrêmement grave, c'est moins grave que de tuer quelqu'un, mais ça fait partie de ces choses-là qui sont complètement interdites dans la police.
Et vous écrivez que chacun se couvre dans la police, que la police est un clan. Personne ne parle, personne ne dénonce?
Non, parce que dans la police, il n'y a pas de traître. Le traître n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que il y a la peur de la mise au placard, il y a la peur d'être victime à terme d'intimidation. Donc vous avez une minorité de policiers qui aura un comportement violent, raciste, sexiste, et la majorité, qu'elle appartienne à la hiérarchie policière ou qu'elle appartienne à des policiers, des collègues, des gardiens de la paix ou des agents contractuels, des ADS comme moi, couvre. Tout le monde se couvre parce que simplement dans la police on ne balance pas.
Vous écrivez que les policiers marchent au quotidien sur une couche de glace bien fine. Ils sont au bord du gouffre en permanence?
Je ne sais pas s'ils sont au bord du gouffre en permanence. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont régulièrement lâchés par leur hiérarchie. Ils sont régulièrement lâchés par les syndicats, régulièrement lâchés par le ministère de l'Intérieur. Contrairement à ce qui peut être dit, annoncé, proclamé sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Moi, j'ai souvent eu l'impression que les policiers agissaient sur un bateau ivre, sans forcément une grande notion de responsabilité. Tout pouvait être possible en fonction de avec qui on travaille. Si dans votre équipage, donc de 4, 5 policiers, vous avez un policier qui est violent, raciste, ça peut vous emmener assez loin, ça peut vous emmener jusqu'à participer à la rédaction d'un faux en écriture publique.
Et puis il y a les conditions de travail que vous décrivez dans le commissariat, des voitures, des locaux hors d'âge, l'hostilité de la population qui vous frappe, les salaires très bas. Est-ce qu'on peut avoir des bons flics concrètement dans ces conditions-là?
Ce métier-là déforme votre perception du réel pour principale conséquence de naviguer toujours sur les berges de la misère sociale. Et quand vous ne traitez que la misère sociale, quand vous ne traitez que des problèmes parfois insolubles de personnes qui ont des différends avec leurs voisins, qui s'entendent pas bien dans un couple, etc., ça vous transforme et vous ne voyez plus que ça.
Vous avez 32 ans, vous en tirez quoi aujourd'hui? Votre expérience a changé le regard que vous portez sur la police?
Je suis quelqu'un de assez insouciant de nature. Mon expérience dans la police m'a transformé dans le sens où aujourd'hui je suis moins insouciant. Ça laisse des traces. Quand je marche dans la rue, quand je rencontre des gens, je suis plus méfiant qu'avant. Comme un policier qui est toujours en fonction, comme un policier qui n'a jamais cessé de l'être finalement. Oui, évidemment, ça laisse des traces. Évidemment, je suis un petit peu marqué au fer rouge par cette expérience-là. Mais je veux penser que cette expérience-là, cette infiltration-là, ce livre-là, Flic, c'est une expérience salutaire et que ça permettra de régler les deux grands tabous de la police française, c'est-à-dire les violences policières d'un côté et le mal-être policier.
Merci beaucoup, merci pour votre témoignage ce matin, Valentin Gendreau. Votre livre Flic, un journaliste a infiltré la police, est publié aux éditions de la Goutte d'Or. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous.